Bonjour à tous, bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la recherche rennaise sur Radio Campus Rennes 88.4. Et cette semaine, j'ai rencontré Alexis Catu, doctorant au sein du Centre de recherche historique de l'Ouest à l'Université Rennes 2. Il s'intéresse à l'opinion publique d'Ernesto Che Guevara en France entre les années 59 et 74. Une émission consacrée donc à ce personnage mythique, appelé plus communément le Che, à son histoire, à ses idées, mais également à son image vis-à-vis des autres pays et surtout de la France. Donc Alexis Catu, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes étudiant au laboratoire Serio de l'université Rennes 2. Donc vous êtes actuellement en train de faire une thèse et vous allez tout de suite nous en dire plus sur le sujet.
D'accord, donc je vais vous donner l'intitulé exact. C'est « L'opinion publique française face à Ernesto Che Guevara et le guevarisme de 59 à 74, images et perceptions ». Donc c'est l'impact large et diffus d'Ernesto Che Guevara en France.
Alors avant de commencer à parler d'Ernesto Guevara, sur quel type de sources vous avez travaillé pour savoir tout ce que vous allez nous raconter ?
Alors les sources principales, c'est la presse française, avec principalement Le Monde, qui a quand même été le fil conducteur de l'étude du sujet plutôt, L'Humanité et Le Figaro aussi, et deux hebdomadaires, L'Express et Le Nouvel Obs, ainsi que quelques revues d'extrême gauche, dont la revue Partisan, qui a été éditée et publiée par François Maspero, qui a eu un impact très important dans la diffusion des écrits révolutionnaires, et pas seulement de ceux de Guevara. Il y a également les sources télévisuelles et audio, qui sont quand même beaucoup plus rares, mais qui donnent... quelques compléments. Bien sûr, il y a les publications de Guevara, qui ne sont pas étudiées proprement, en fait. Hein. J'ai plus étudié leur diffusion. Et les biographies et les ouvrages divers sur le communisme mondial, les rénovations internationales, le contexte français, ou les mouvements révolutionnaires, dans lesquels on trouve des allusions à Ernesto Guevara.
D'accord, donc comme vous l'avez compris, on va parler cette semaine de Ernesto Guevara, autrement appelé le Che.
Oui,
plus connu sous ce nom-là, des fois. Alors, il est de quelle origine, déjà ?
Alors, donc, son origine, c'est Argentine. C'est de là d'où vient l'expression Che, puisque les anciens exilés cubains l'appelaient Che en rapport avec l'interjection que les Argentins utilisent à chaque début de phrase. Voilà. Il est né en 1928 et il a participé à la révolution cubaine à partir de 1957. Donc, ce qui fait qu'il est arrivé au pouvoir comme Castro, alors qu'il avait à peine une trentaine d'années.
Et alors avant, il avait fait, donc, je crois, des études de médecine.
Oui, c'est ça.
Donc, et il a fait le tour de l'Amérique latine.
C'est ça, le tour de l'Amérique latine, le tour de l'Argentine d'abord en 1950. Et par la suite, il a découvert l'Amérique latine avec son meilleur ami. Et donc c'est à partir de là, en voyant, disons, la misère et les conditions sociales et économiques de l'Amérique latine, bien sûr de manière assez générale, hein, puisqu'en fait il n'a pas vécu non plus dans chaque pays pendant une dizaine d'années.
D'accord, donc il a fait le tour de l'Amérique latine en découvrant plein d'inégalités sociales. Mmh. Et alors comment est-ce qu'il en est arrivé à aller à Cuba ?
Alors, il a rencontré différents exilés de différents pays latino-américains où, bon, il y avait principalement des dictatures à partir des années 50 dans les différents pays. Donc, ce qui fait qu'il y avait différentes mouvances politiques et d'exilés qui se trouvaient aussi bien en Bolivie qu'au Pérou, etc. Et notamment au Mexique. Et au Mexique, il a rencontré Fidel Castro et le groupe d'exilés cubains qui était dirigé par le leader des étudiants. Enfin, il a décidé de rompre avec la vie qu'il avait plus ou moins construite, hein, puisqu'il était père depuis un an, pour partir à Cuba et renverser le pouvoir de Fulgencio Batista.
On va enchaîner donc sur les idées qu'il défend. J'imagine qu'il y a des gens qui l'ont influencé, donc notamment dans ses lectures. Donc, quelles étaient les idées principales qu'il défendait
Alors, il y avait deux spécialités, on va dire. Il y avait l'aspect, disons, politique, économique, propre à un pays, c'est-à-dire une révolution nationale basée sur les nationalisations, les étatisations, pardon, et la réforme agraire. C'était le principal problème de l'Amérique latine. Les
paysans... La réforme agraire, c'est quoi,
oui ? Alors oui, la réforme agraire, c'est les paysans, malheureusement, ne possédaient pas leurs terres. Ce qui fait que les grandes multinationales possédaient presque l'essentiel de Cuba au moment où la révolution s'est déclenchée. Donc le but des révolutionnaires cubains, c'était principalement une révolution agraire. Guevara se référait au communisme. Mais il était un des seuls révolutionnaires cubains à se dire communiste. La plupart étaient essentiellement pour une réforme agraire, et c'était le but principal de la révolution cubaine. C'est par la suite que les références au communisme se sont manifestées, disons, une fois que la révolution cubaine avait pris le pouvoir. Et donc les autres idées, c'était son aspect internationaliste, puisqu'il a appelé vraiment très tôt, dès que la révolution cubaine a pris le pouvoir, il a appelé à une révolution dans les pays du tiers-monde, en Amérique latine notamment, et une révolution mondiale aussi. Donc qui supposait un meilleur rééquilibrage des richesses, une remise en cause des sociétés aussi en place au moment, forcément.
À partir du moment où Fidel Castro et Ernesto Guevara arrivent à faire tomber la dictature à Cuba, ils sont passés donc au pouvoir. Comment ça s'est passé? Comment ils se sont distribués les rôles?
Alors, une fois que la révolution cubaine a vaincu, et bon, il faut quand même préciser, elle a quand même principalement gagné par l'échec de la dictature Batista. C'était une dictature très sanguinaire, corrompue et soumise aux États-Unis. Donc, les révolutionnaires cubains ont profité finalement de cet état pour lancer une guérilla et par la suite donc obtenir le soutien des paysans, puisqu'ils appelaient une réforme agraire, donc finalement les paysans étaient les premiers concernés. Et c'est donc une révolution quand même rurale qui est basée sur les campagnes qui s'est mise en place. Donc une fois qu'ils ont été au pouvoir, la première chose, évidemment, ça a été d'établir une réforme agraire. Et par la suite, il y a eu des étatisations et des nationalisations qui se sont faites aussi bien parce qu'il y a eu des influences communistes au sein du gouvernement cubain, mais surtout quand même parce que la pression des États-Unis obligeait quelque part Cuba, ou poussait plutôt Cuba, à aller toujours plus loin dans sa révolution. Guevara avait déclaré, tout comme Castro d'ailleurs, à chaque acte contre Cuba commis par les États-Unis, nous répondrons par une radicalisation. Et on peut dire que c'est vraiment ce qu'il a fait, puisque ça a même poussé très loin la radicalisation.
D'accord, donc Fidel Castro, il passe au pouvoir. Et Ernesto Guevara, du coup, quel rôle il prend à ce moment-là?
Alors au départ, Guevara, dont Castro sait très bien qu'il sent la poudre en fait, c'était pas vraiment le personnage qu'il fallait mettre en première ligne, quoi qu'ils étaient arrivés au pouvoir. Donc Guevara, il a été mis en retrait, finalement. Je pense que c'était pas une sanction, je pense que c'était plutôt une habileté politique de Castro de le maintenir à l'écart et de mettre en place un gouvernement modéré, pour mieux, par la suite, radicaliser la révolution une fois que le pouvoir était réellement dans les mains des révolutionnaires. Donc Guevara est apparu quand même sur la scène publique cubaine, alors qu'il était déjà très connu des Cubains. Il avait une grande renommée en tant que guérillero, mais en tant que politique, même théoricien politique, c'est à partir de 61-62 qu'il a surtout pu mettre en place une politique économique donc radical, et aussi apparaître comme un théoricien de la lutte armée et un théoricien politique aussi.
C'est là qu'il prend un peu de l'importance,
oui.
Jusqu'à ce qu'il s'en aille et qu'il disparaisse.
Oui, c'est ça.
Quelles sont les hypothèses de ce départ ?
Alors les hypothèses, bon, il y en a deux principales. La première idée qui vient forcément, c'est une rupture définitive entre Castro et Guevara. Ce qui, à mon sens, est un petit peu court comme explication, dans le sens où Castro et Guevara, finalement, étaient quand même liés par amitié depuis très longtemps. Mais bon, ça serait assez léger comme explication. C'est surtout après une question de pratique politique. Je pense que les deux avaient des objectifs assez similaires, mais en même temps des atouts, on va dire, assez différents. Donc ça, c'est plutôt la deuxième version, hein. Castro, à mon avis, est plutôt resté à Cuba pour mener le castrisme, c'est-à-dire la pratique du pouvoir, donc assurer la pérennité de la révolution cubaine, alors que Guevara, lui, a voulu propager la révolution au-delà de Cuba pour justement rompre l'isolement cubain en Amérique latine.
Donc après, il a disparu. Enfin, on n'a plus entendu parler de lui.
Donc à partir de mars 65, oui.
Et alors, il est réapparu au Congo.
Alors, il est réapparu au Congo, mais au Congo, finalement, on le sait depuis quelques années simplement, hein, depuis le milieu des années 90, qu'il a été au Congo. Avant, les services secrets cubains, certainement états-uniens aussi, ont tenu l'information secrète, mais il a bien été au Congo, donc pendant à peu près 6 mois, où alors là, ça a été un véritable échec, puisque son but, c'était de propager la révolution à toute l'Afrique, et il n'a jamais pu trouver les soutiens à la fois financiers et militaires pour développer une guérilla qui aurait enflammé l'Afrique, en fait.
Et donc de là, il est rentré ?
De là, il est rentré, oui.
En Bolivie ?
Alors, il est rentré à Cuba.
À Cuba, d'abord.
Il a été exfiltré en Bolivie. Et puis, il a essayé, là, d'enflammer l'Amérique latine à partir de la Bolivie. Et donc, de mettre en pratique la théorie fauquiste qu'il a inventée, c'est-à-dire créer un noyau révolutionnaire. Et à partir de ce noyau révolutionnaire, créer différentes colonnes qui auraient... propager la révolution. En fait, il essayait d'appliquer l'exemple cubain à l'Amérique latine, ce qui a été un échec.
Ça lui a même coûté la vie.
Ça lui a coûté la vie. Bon, je pense que de toute façon, on ne peut pas connaître exactement la psychologie du personnage, mais je pense que c'est quelque chose dont il avait accepté. Il avait accepté cette idée, de toute façon. Je crois qu'il n'y a certainement pas été en tant que martyr. Mais je pense qu'il a fait le don de sa personne pour la cause qu'il estimait juste.
Voilà. Et justement, par rapport à sa mort, il y a différentes hypothèses aussi, ou c'est quelque chose de clair, officiel et...
Ce qui est plus clair aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il a bien été exécuté. À l'époque, les militaires boliviens étaient plus enclins à diffuser l'idée qu'il avait été tué au combat. Mais c'est peut-être leur tort d'ailleurs, ils auraient pu le tuer au combat puisqu'il était désarmé lorsqu'il a été pris. Mais il a bien été exécuté dans l'école de la Higuera, un petit village qui était dans une zone très isolée. Et cette zone isolée d'ailleurs où il se trouvait montrait bien l'isolement de la guérilla bolivienne dont il était le chef, hein, et qui était réduite à quelques hommes, en fait. Bon, ça c'est plus un avis personnel, mais je pense quand même que le gouvernement bolivien et l'armée bolivienne a certainement attendu quand même le feu vert des États-Unis pour l'exécuter. Je pense que c'est une erreur, en tout cas.
Ouais, justement, est-ce que c'était une bonne chose de l'avoir exécuté ou pas ?
Par rapport aux objectifs des Boliviens et aussi des États-Unis, c'était le meilleur moyen de renforcer le mythe et d'en faire un martyr de la révolution. On a bien vu quand même les années qui ont suivi, et même qui précédaient sa mort, que les guérillas guévaristes s'étaient multipliées. Donc en faisant un martyr ou un mythe lorsqu'il avait disparu, hein, et puis là un martyr lorsqu'il est mort, c'était, je pense, le meilleur moyen d'en faire un mythe presque éternel, puisque je pense quand même qu'il reste encore un mythe, tout du moins en Amérique latine.
On s'accorde une courte pause musicale avec Sandy Barber et le titre Can't Just See Me. On se retrouve juste après, toujours avec Alexis Catu. On parle de mythes, mais on va s'intéresser un peu à la vision qu'ont les autres pays au niveau international de Ernesto Guevara.
Oui.
Donc, d'un point de vue international, quelle vision on a de ce jeune homme ?
Alors, au tout départ, il n'est pas connu sur la scène internationale, puisqu'il fait partie de la guérilla. Il est vraiment essentiellement connu des services secrets états-uniens ou même latino-américains. Mais une fois que la révolution cubaine est arrivée au pouvoir, là, finalement, il va prendre progressivement, bien sûr, pas dès 59, mais à partir de 61-62, il va prendre une dimension d'abord cubaine, puisqu'il va avoir des responsabilités économiques dès 59 à Cuba, et aussi une dimension internationale, puisqu'il va être amené à être ambassadeur de la révolution cubaine, et il va diffuser le message révolutionnaire de la révolution cubaine, mais qu'on pourrait même dire message révolutionnaire guévariste, finalement, aux différentes conférences mondiales auxquelles il va participer, comme à l'ONU en 64, mais aussi dans des discours comme le célèbre discours d'Alger, où finalement il va dépasser le cadre de ses fonctions autorisées, dans le sens où il va même dénoncer les pays socialistes qui, selon lui, ne collaborent pas assez au développement des guérillas dans le monde, alors qu'officiellement ils les soutiennent.
Et alors est-ce que ce mythe s'écroule à un moment donné ou pas ?
Alors, de son vivant, on ne peut pas dire que le mythe ou que la renommée internationale s'est vraiment effondrée. C'est plus finalement avec la chute des idéaux révolutionnaires du début des années 70 que le mythe, entre guillemets, et que même la référence à Guevara s'est estompée. D'abord, disons, à la fin des années 60, si on prend le mouvement de 68, il y a plus de références finalement au maoïsme ou à l'exemple d'Ho Chi Minh, que Guevara. Guevara est plus une référence symbolique. Donc ce qu'on peut dire quand même, c'est que Guevara a plus finalement marqué la France par un aspect symbolique que politique. C'est ce qui explique peut-être aujourd'hui d'ailleurs la diffusion de ses portraits, plus que ses idées. Même si ses écrits ont été quand même diffusés en France.
Donc vous, justement, vous vous intéressez plus particulièrement à l'opinion publique de la France face à Ernesto Guevara. Ben alors justement, en France, quelle image on se fait de jeune homme ?
Alors en France, disons dans les années 60, je pense qu'il a eu une influence symbolique et même culturelle finalement, un petit peu comme l'a eu par la suite 68. Donc il correspondait aux aspirations d'une jeunesse qui était quand même en décalage avec le pouvoir gaulliste, hein, une jeunesse scolarisée surtout d'ailleurs. Et cette jeunesse se reconnaissait aussi dans les mouvements indépendantistes et révolutionnaires qui pouvaient se développer dans le tiers-monde. Donc Guevara, comme lui, soutenait une révolution mondiale et soutenait les révolutions dans ces pays du tiers-monde et anciennement colonisés, automatiquement, il apparaissait comme une référence et comme un exemple. Pas forcément un exemple à suivre dans la démarche, mais tout du moins un allié, tout du moins, des peuples considérés comme opprimés. Donc toute cette influence diffuse, finalement, a pu expliquer pourquoi on a retrouvé ces portraits un petit peu partout dans les manifestations de mai 68, ou pourquoi des éditeurs comme François Maspero, qui était engagé pardon, pour soutenir les mouvements du tiers-monde et les mouvements révolutionnaires, ont diffusé régulièrement ces idées.
Alors on parle des fois de guévarisme. À partir de quand, en fait, est-ce que ce mot entre dans le discours commun des gens ?
Alors, le guévarisme, c'est à partir du moment où Guevara a théorisé sa pensée et son action. Alors, en fait, il y a un décalage entre le moment où il l'a fait et le moment où il est perçu et diffusé en France. Donc, le guévarisme, finalement, on pourrait le situer à partir de 59-60, puisque Guevara a écrit le livre « La guerre de guérilla » dès 59, hein, qui explique le fauquisme, donc, et le principe du noyau révolutionnaire à partir desquels la révolution doit se propager. Mais on peut aussi inclure dans le guévarisme, pas simplement la lutte armée, on peut aussi inclure quand même tout ce qui est théorie et pratique économique, hein, qui d'ailleurs se sont quand même soldés principalement par des échecs, et tout ce qui est aussi théorie politique, que l'on retrouve pour l'essentiel quand même dans Le socialisme et l'homme à Cuba, qui reprend l'idée politique et idéologique d'Ernesto Guevara. Donc en France, on peut dire quand même que le guévarisme, non pas s'implante, mais apparaît, tout du moins dans les publications, à partir de 62-64, moment où François Maspero commence à diffuser les textes de Guevara.
François Maspero ?
Alors François Maspero, c'est un éditeur, c'est un libraire à la base qui dirigeait La Joie de lire, hein, au Quartier Latin. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment central pour comprendre le contexte politique français et aussi les rapports entre une partie de l'extrême gauche et la révolution cubaine, hein, et l'influence de la révolution cubaine. Puisqu'il a diffusé quand même l'essentiel des pensées des leaders indépendantistes et révolutionnaires dans le monde entier. Mais on remarque que pour Guevara, il a quand même diffusé l'essentiel de sa pensée. Et on peut même dire que c'est principalement lui qui l'a diffusé en France, puisqu'il y a peu d'éditeurs finalement qui ont eu accès aux textes de Guevara. Il a été très lié finalement à la révolution cubaine assez tôt et il a décidé notamment de diffuser la revue Tricontinentale qui appelait aux propagations de la révolution dans le monde entier et de la lutte armée.
Votre thèse, elle s'étend de 1957 à 1974, donc il y a eu différents gouvernements mis en place en France. Et alors est-ce que les différents gouvernements ont eu une incidence sur l'impact du guévarisme ?
On ne peut pas dire ça quand même en fait. Les différents gouvernements, disons que voilà, ça rentre dans le contexte français principalement. Le régime gaulliste, hein, le général de Gaulle, était quand même quelqu'un qui a voulu une politique internationale indépendante pour la France. Alors il s'inscrivait quand même dans le camp capitaliste, donc comme allié finalement des États-Unis, mais on remarque quand même qu'il, comme allié, c'était tout de même pas un allié indéfectible, dans le sens où il voulait quand même mener une politique bien à part. Et son opposition finalement avec les États-Unis explique quand même pourquoi la révolution cubaine, lorsqu'elle est venue au pouvoir, a finalement trouvé un écho favorable dans la presse française et dans l'opinion publique, aussi bien à droite qu'à gauche. Au départ, on remarque quand même que la victoire de la révolution cubaine est quand même applaudie presque unanimement.
Et alors actuellement, quelle image on a de Ernesto Guevara ? Enfin, est-ce que ça reste un mythe ? Enfin, on voit des posters des fois affichés dans les chambres d'adolescents.
Alors là-dessus, en fait, je suis assez partagé dans le sens où le mythe, finalement, si on prend la définition, c'est quand même quelque chose qui retire l'essence même de ce qui serait le mythe. Alors dans ce cas-là, on peut quand même, bon, c'est un avis personnel, on peut quand même voir que les idées d'Ernesto Guevara sont quand même très très loin de nous, et les jeunes qui peuvent porter son t-shirt ne sont pas certainement au courant de l'essentiel de sa pensée, voire même par moments du minimum. Donc je pense que c'est plus une influence et un impact diffus qui s'apparente presque à un impact culturel et symbolique. Il a plus finalement gardé une image de rebelle, d'opposant, alors que son discours idéologique et politique reste quand même bien plus marginalisé et finalement peu connu.
D'accord, donc rébellion ne rime pas avec révolution.
Non, pas du tout, pas du tout.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Le Labomatique est maintenant terminé. On se retrouve dès la semaine prochaine sur le 88.4 ou au www.radiocampusrennes.fr.